Oui, je demandais si la maîtresse en question avait été mise au courant de, enfin, des suites de l'aboutissement des travaux.
Eh bien, ça, c'est très compliqué. Parce que le rendu qu'on peut faire à l'enseignant et au bout d'un temps d'analyse qu'il a, c'est 10 ans, eh bien, on ne sait pas le faire. Alors, les communications qu'on a eues avec l'enseignante ont beaucoup porté sur le regard que nous portions sur ses élèves. C'est-à-dire qu'on lui a offert, à elle comme à la maîtresse de CP, au maître de CP, nos regards d'observateurs. Pour lui dire, toi, tu peux pas être partout, mais nous, on a vu un tel faisait ça. Et on a essayé de décrire les élèves de manière à ce qu'elles s'aperçoivent qu'ils étaient capables. Mais ça, c'était sur le moment, je dirais. Mais le retour après coup, surtout 10 ans après, parce que c'est le temps qu'il nous a fallu pour y comprendre un peu plus, on ne sait pas l'organiser pour l'instant. C'est une amie à moi, je la vois de temps en temps, mais je ne sais pas comment est-ce que je peux lui dire quoi. Pour l'instant, je ne sais pas. Parce qu'il faudrait que ça soit un peu compact et un peu pas adressé à sa personne, puisqu'encore une fois, pour moi, c'est pas adressé à elle-même. Donc, je lui ai offert le livre qu'on a écrit sur la maternelle. Enfin, les mathématiques en maternelle. Ouais, c'est pas bon. Un retour que je sais faire au plan individuel. Voilà. Au plan collectif, oui. En formation, ça, il peut m'arriver de faire des formations dans lesquelles je raconte des choses comme ça.
Les collègues sont très rarement demandeurs. Beaucoup d'ailleurs nous donnent l'autorisation de séjourner dans leur classe à condition de ne pas savoir. Vous voyez, ils mettent la condition, je ne lirai pas ce que tu vas écrire et tu ne me dis rien. Non, c'est la condition pour qu'ils font que leur, comment dire, c'est d'une certaine manière le contrat de confiance avec le chercheur. Si vous voulez, il joue le jeu. Et c'est pour des enseignants, c'est extrêmement difficile d'accepter des oseaux qui regardent. Donc il joue le jeu de ne rien changer, de ne rien modifier. C'est de faire comme ils font. Et d'une certaine manière, ça veut dire... c'est dans le contrat, quoi. Moi, j'ai très rarement entendu des enseignants me demander un retour. Et en général, quand il y a un retour, nous nous apercevons qu'il n'est pas bon. C'est-à-dire que c'est souvent, c'est parfois chez des jeunes collègues, un désir « dis-moi comment changer, ce qu'il faut que je change ». Or, c'est justement la phrase qui « on change pas ». Puis vous voyez, dans la séance là, si on lui dit la prochaine fois tu changes ça, c'est pas la solution.
Oui, mais je crois qu'on rend pas le. Il y a plusieurs éléments. Déjà, c'est pas qu'on n'a pas fait de retour. On a déjeuné ensemble des tas de fois quand on venait. On a pris toutes les récréations avec les maîtresses de l'école et pas seulement avec celles qu'on voyait pour parler toutes sortes de choses. Et d'ailleurs, quand j'ai recroisé la maîtresse, celle-là en particulier, celle de CP, c'est un peu différent, mais parce qu'elle voulait pas au départ être observée. Elle n'a accepté que parce que ça s'affichait en l'air la recherche, puisque nous on suivait les mêmes élèves. Donc elle a compris qu'elle avait une responsabilité en quelque sorte, et du coup elle a dit oui, mais c'était très dur pour elle. Mais celle de maternelle était volontaire. Mais je crois que elle a eu l'impression, et c'était pas faux d'ailleurs, qu'on avait déjà fait ce retour dans toutes ces interactions qu'on avait eues. Simplement, c'est pas le retour, c'est pas le retour de la recherche dans l'après-coup. C'est celui-là qui est difficile à organiser, parce que il est à la fois beaucoup plus déstabilisant, il prend du temps, et du coup après il arrive à un moment qui forcément cheveux sur la soupe. Et par contre le retour du quotidien, je veux dire, on l'a fait. En même temps, il faut voir que dans ce métier-là, en tout cas, c'est une vraie intimité. Je pense que c'est pas plus difficile du point de vue de l'intime de regarder un professeur quand il fait ce qu'il fait d'habitude. C'est pas du tout pareil quand on partage avec lui une innovation, une pratique. C'est pas du tout la même chose. Mais quand on regarde ce qu'il fait d'habitude avec ses élèves, enfin franchement, l'observer dans sa salle de bain, ça serait pas moins intime. Et il faut quelque chose pour pouvoir supporter de pas qu'on fasse pas trop de retours. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas envie d'avoir un retour trop grand. Mais je crois qu'elle a... On a eu des interactions avec elle, hein, donc c'était pas sur... Et d'ailleurs, souvent, elle m'a dit, hein, mais c'était bien, quand est-ce que vous revenez? Elle adore qu'on retourne la voir. Donc, c'est bien qu'elle y trouve quelque chose. Elle nous a réaccueillis avec d'autres chercheurs aussi. Elle adore ça. Donc, ne serait-ce d'ailleurs que savoir ce que les élèves font. J'ai fait plusieurs expériences hors classe aussi, dans une autre petite salle avec ses élèves. Et elle était passionnée de savoir ce que les élèves font, par exemple, dans des situations genre jetons. Voilà. Donc, elle y trouve quelque chose, en tout cas, dans ce qu'on lui dit, de ce que ses élèves sont ou font. Et sur sa pratique... On s'avance pas trop parce que nous, il nous a fallu 10 ans pour comprendre comment est-ce qu'on pouvait dire certaines choses et on ne sait pas encore comment le dire aux collègues. Peut-être, mais en tout cas, ce n'est pas dans ce contrat-là que ces maîtres-là sont rentrés. Parce que sur un an, quand vous allez régulièrement à peu près une semaine tous les 2 mois, mais une semaine complète tous les 2 mois, c'était à peu près ça, parce que Marceline venait de loin, dans une classe, on ne va pas analyser la pratique, non, tout ce qui se passe.
Mais il me semble que ça rejoint des choses qu'on a dites régulièrement, c'est-à-dire ces espaces collectifs pour remettre le travail sur le, pour remettre le métier sur le métier. Voilà. On est là sur des difficultés qui ne relèvent pas d'un individu, mais qui quand même le touchent intimement. Voilà, mais qui sont effectivement, il y a une dimension générique hein, dans ce qu'on voit là, et c'est comment est-ce qu'on remet sur le métier des difficultés que les professionnels rencontrent et qui sont des difficultés professionnelles, donc dans un cadre collectif, parce qu'effectivement, c'est pas seulement individuellement qu'on va se sortir de ce truc-là. Or, ces espaces, c'est Jean-Marc Bertel a très très bien dit, ces espaces dans l'éducation nationale, malheureusement, sont inexistants.
Juste
voilà.
Peut-être compléter. Enfin, je crois qu'il faut aussi qu'on se méfie de confondre la recherche et la formation.
Aussi.
Voilà. La recherche, elle est utile pour nous donner à voir des choses qu'on ne peut pas voir, et nous outiller conceptuellement pour regarder le travail.
Invisibles.
Mais c'est bien en termes de comment, en tant que formateur ou un concepteur de formation, etc. Comment on peut se ressaisir de ces concepts et des outils pour créer des espaces de réflexion avec les collègues. Voilà. Mais je crois qu'il ne faut pas mélanger. On a tendance à vouloir dire à la recherche. Enfin, il faut que la recherche dise au métier ce qu'il a à faire. Je crois qu'il ne faut pas penser les choses en ces termes-là.
Je suis d'accord.
Ah, mais la recherche alimente la formation.
Si je peux
c'est
dire,
bien ce qu'on est en train de faire aujourd'hui.
En formation, Marceline le fait plus maintenant, mais elle l'a eu fait. Mais en formation, moi, je parle d'énumération, je parle de littératie, je parle d'oralité. Bref, les étudiants qui sortent de l'ESPE Clermont-Auvergne, ils savent des choses que peut-être d'autres ne savent pas. Maintenant, qu'est-ce qu'ils en font si la profession ne reconnaît pas leurs connaissances? J'en suis pas sûre. Moi, j'ai peur que... Enfin, ce que je constate, c'est que souvent, ça se perd ensuite parce que... ces jeunes, ils ont besoin que leur connaissance de jeunes soit reconnue comme des connaissances utiles. Et si ce n'est pas le cas, ils vont les perdre. Donc oui, en formation, bien sûr, mais c'est complètement différent. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ont dit les collègues. C'est-à-dire, c'est pas la même chose de faire un retour individuel, qui peut être culpabilisant, qui est difficile à faire, même s'il peut être utile, et de faire un investissement sur quels sont les objets qu'on a extraits avec beaucoup de difficultés, mais qu'on a extraits et qui nous semblent importants à travailler en formation. C'est un petit peu pour ça qu'on a pointé sur certains objets. Oui, complètement d'accord.
Sur cette question d'articulation entre recherche et formation, là, puisque c'est là qu'on en est, je pense que les recherches qui viennent de nous être présentées, elles ont deux grandes forces principales. La première, c'est de rompre avec le modèle selon lequel il faut déterminer les bonnes pratiques pour les faire rentrer dans la tête des gens, mais il faut s'intéresser aux pratiques ordinaires de la classe. Ça, c'est un positionnement qui est déjà fondamental. Le second, c'est de dire, puisque ce qu'on demande aux enseignants, ce n'est pas de faire apprendre les élèves, mais de rendre cet apprentissage possible, intéressons-nous non pas seulement de savoir si les élèves apprennent, mais intéressons-nous de savoir si, dans les situations d'enseignement, l'apprentissage est possible pour les élèves et pour tous les élèves. Puisque le problème, on sait bien, c'est que surtout pour les élèves qui n'ont pas le même bagage que les autres. Bon, à mon avis, ça, ce sont deux entrées fondamentales des recherches qu'on vient de nous présenter. Eh bien, dans la formation, c'est pas autre chose que ça. C'est-à-dire que moi, je postule, je fais partie de cette maison et on conçoit des outils de formation, que si on ne peut pas travailler sur les pratiques ordinaires des enseignants dans l'espace de la formation, alors on va échouer à tirer parti de ce que nous dit la recherche de ces pratiques ordinaires. Et c'est là que, par rapport à ce que disait Claire au début sur le sujet de dans quelle mesure est-ce qu'on peut donner à voir son travail et l'assumer à visage découvert, entre guillemets, évidemment, ça demande des précautions d'acceptabilité des dispositifs qui sont grandes, qu'elles ont prises, puisqu'elles ont pris parti de dire ce qui se passera dans la classe restera d'une certaine façon dans la classe, même si bon, chacun comprend ce que ça veut dire. Et bien, je pense que dans l'espace de la formation, si on ne peut pas assumer ces pratiques ordinaires dont on sait bien qu'elles sont quand même largement génératrices de difficultés, je veux dire, il n'y a qu'à écouter ce qu'on vient de nous expliquer, et ben, on n'est pas prêt de les transformer. Et sur un problème fondamental comme celui du décrochage, tant qu'on pratiquera la politique de la classe fermée, à mon avis, on n'est pas prêt de changer grand-chose dans les établissements. Et c'est pour ça que cette maison s'intéresse à voir comment est-ce qu'on peut outiller les enseignants et les formateurs pour pouvoir, comme le disait Sylvie, remettre le métier sur le métier, mais à partir des pratiques ordinaires, non pas à partir de ce qu'il faudrait faire dans le monde idéal dans lequel personne ne vit. Voilà.
Marceline, vous voulez réagir ?
Oui, enfin, je ne sais pas si je vais vous répondre, mais moi, il me semble, en tous les cas, que ce que nous capitalisons au terme de notre travail, par rapport aux questions que vous posez, qu'est-ce qu'on en fait dans l'institution, à la fois en formation initiale, continue et ailleurs, il me semble que ce que nous prouvons, c'est que tous les élèves qu'on vous confie, et je dis bien tous, et Dieu sait si dans la classe en question, il y avait des élèves problématiques à première vue. Quand on observe dans les séances, dans l'ordinaire de la classe, les connaissances dont ils disposent et les connaissances qu'ils pourraient acquérir à peu de frais, on s'aperçoit que c'est tout à fait considérable. Et ça met en cause le discours défectologique classique. À la fois du côté de l'oral, tous les élèves avec lesquels que nous observons ont les compétences verbales pour apprendre. Ils ne sont jamais en situation de difficulté parce qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'ils ne comprennent pas le langage. Ils ne sont jamais en situation de difficulté parce qu'ils n'arrivent pas à se faire comprendre. Ils se font toujours comprendre. Et la qualité d'ailleurs de l'enseignant est là pour. Donc, l'explication, c'est pas un déficit langagier. C'est pas davantage un déficit culturello-littéracien. On a essayé de vous montrer que de la littératie, ils ont une pratique. Même dans les milieux analphabètes. Oui, disponible, mais pas reconnu. Alors, déjà ça, si c'est à nous de capitaliser suffisamment pour faire évoluer chez d'autres chercheurs des hypothèses qui sont toujours là, résistantes. Parce que, si vous voulez, ce qui me frappe, c'est qu'en ce moment, nous avons tous l'intuition que la difficulté scolaire, elle est interne aux apprentissages, à la didactique, hein, elle est de type didactique et non pas pédagogique et sociale. Bon, c'est là. Mais cette intuition, quand on essaye de la travailler, on s'aperçoit qu'on est à peine en train de se dire que c'est ça le problème, que pour résoudre le problème, on sort instantanément et on va chercher les alibis sociaux qui réapparaissent. On les a achetés par la porte et ils rentrent par la fenêtre. Mais ils sont tout le temps là. Et c'est ça qu'il faut que nous arrivions à bouger. Alors, à bouger dans le discours de l'institution, au plus haut, dans le discours du grand public, dans le discours des chercheurs, en apportant un certain nombre de savoirs, en disant, ben non, on peut vous dire que tous les élèves de 5 ans de la littératie ont ces pratiques. Et arrêter de dire qu'ils échouent parce que papa et maman ont oublié de les plonger dans un petit bain de littératie, etc., etc. Vous vous condamnez à ne rien comprendre à leurs difficultés. Alors, il me semble que c'est un travail qu'on fait, qui est indispensable. J'ai l'habitude, alors c'est un travail qui est indispensable. Il faut le temps que nous accumulions du savoir. Oui, alors on le diffuse, et avant de savoir ce qu'on va en faire en formation et dans les pratiques, je crois que l'un des grands problèmes que nous avons depuis des années, c'est que nous avons fait l'impasse sur comprendre ce qui se passe. Et qu'on est tout de suite passé à « il faut faire ». Et comme si on savait ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe, tellement la réalité est compliquée. Donc si moi je peux juste vous persuader que c'est invraisemblablement tordu ce qui se passe. J'ai d'ailleurs l'habitude de dire que si les causes de l'échec scolaire étaient aussi stupides que celles qu'on nous raconte, il y a belle lurette qu'il aurait disparu. Et que les enseignants ne sont pas idiots. Il suffisait de faire ce qu'on nous prétend qu'il suffit de faire, il y a belle lurette, ils le feraient. Ils le font d'ailleurs, et ça ne produit aucun effet. C'est donc bien que le problème est autrement compliqué. Et c'est ce discours de complexité qui, je sais bien, est très frustrant, parce que quand on nous demande, nous, on découvre que sur une bande vidéo, comme par exemple celle-ci, cette séance, on a déjà écrit 3 articles, on s'aperçoit en la re-regardant qu'il y avait des choses qu'on n'avait pas vues, et que ce qu'on n'avait pas vu était sans doute le plus important. Oui, ce que nous vous racontons, la première fois où on a vu cette vidéo, on n'a rien vu, comme tout le monde. Rien. C'est à force de saturer le regard qu'on a fini par voir des trucs et qu'on s'est dit comment c'était possible qu'on ne les voit pas. Je répète, si c'était si visible que ça, tout le monde le verrait. Enfin, à commencer par les enfants eux-mêmes, ils ne sont pas idiots, et leurs enseignants. Voilà. Alors ceci, c'est pour vous répondre à ce que je sens comme une forme d'impatience, mais je crois que nous ne savons pas encore tout ce que nous avons à savoir pour régler certains problèmes. Voilà.
D'accord.
Ça, c'est brutal, là.
Ça ferme à gueule. Juste une petite question. Bonjour. Est-ce que la pratique de l'oral ne crée pas des différences scolaires, des inégalités scolaires, au sens où peut-être que ce n'est pas valable pour les élèves de maternelle, mais qu'un élève peut donner son avis, influencer ses camarades, influencer ses pairs, que certaines personnes vont avoir plus de facilité à s'exprimer? Et est-ce que le fait, je ne sais pas, qu'ils aient choisi individuellement une étiquette avant, de manière à pouvoir exprimer leur jugement au niveau de la gestuelle, sans entendre les autres, ça aurait eu une influence ou pas? Je me demande juste si certaines personnes, à l'oral, n'arrivent pas à mieux s'exprimer, mieux défendre leurs idées, être plus présentes et donc créer des inégalités scolaires.
Je ne suis pas sûre de comprendre.
Moi, je ne suis pas sûre non plus complètement, mais il me semble que, en tout cas par rapport à ça, là par exemple, dans la situation, là il y avait une situation dans laquelle ils comprenaient, ils auraient pu avoir la possibilité de comprendre pourquoi est-ce que c'était important de s'exprimer. Et voire même pourquoi il était important que tous s'expriment. Dans une situation comme celle-là, il me semble que ceux qui ne parlent pas peut-être trop d'habitude ont peut-être l'occasion aussi de s'exercer. Parce que ce qu'on constate quand même, c'est que très souvent, l'oral, c'est comme c'est un peu, comment dire, autant l'écrit est normé, autant l'oral ne l'est pas, bien finalement, au moment où on demande leur avis, par exemple, aux élèves sur certaines choses, on le demande aux élèves. Donc il y en a 3 qui s'engouffrent. Mais finalement, ce n'est pas des situations dans lesquelles on a intérêt à donner son avis. Même parfois, on a intérêt à ne pas le donner parce que, je ne sais pas, on peut... Donc, il me semble que la question des situations... Alors là, j'ai d'autres exemples, mais on pourra en parler à un autre moment éventuellement. Mais la question des situations dans lesquelles les élèves sont amenés à communiquer, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, sont souvent des situations qui ne sont pas des situations de communication dans lesquelles on a intérêt à le faire. Et donc, bah oui, il y a des élèves, ils aiment bien, donc ils font. Et puis finalement, c'est toujours eux qui font. Mais quand on met les élèves dans des situations où il faut qu'ils communiquent, parce que pour obtenir le but qu'on leur a fixé et qu'ils ont accepté comme étant le but qu'ils se fixent eux aussi, eh ben on s'aperçoit qu'ils sont capables. Mais c'est pas si fréquent que ça. Donc moi, je suis pas sûre... En tout cas, je suis pas sûre que ce soit l'oral serait bien ou l'écrit serait moins bien. Enfin, je sais pas. Mais c'est dans quelle situation est-ce qu'ils ont l'occasion de s'exprimer, que ce soit à l'oral ou à autre chose. Au passage, quand vous dites qu'ils ont pu donner leur avis un par un, il y en a, ils choisissent l'étiquette rose parce qu'ils aiment le rose. Hein. Donc, enfin, elles choisissent l'étiquette rose parce qu'elles aiment le rose.
Je ne sais pas si je vais bien vous répondre, parce que je suis... Mais ce que j'essaye, en tous les cas... Alors, peut-être pas avec cette vidéo, mais des tas d'autres vidéos nous le confirment. Si vous voulez, ce qu'on voit, vous savez, tout le débat sur il y a des petits parleurs, des moyens parleurs, des grands parleurs, rendons tous les petits parleurs grands parleurs, enfin, etc. Bien. Là aussi, je pense que ça suppose que le petit celui qu'on a nommé petit parleur, qui parle peu, s'il ne le fait pas, c'est parce que, pour des tas de raisons, il ne peut pas. Or, l'expérience nous prouve, nous, que le plus petit de tous les plus petits parleurs cause sans l'ombre d'un problème dans certaines situations et qu'il a les compétences verbales qu'on ne lui reconnaît pas. Que la classe soit une jungle pédagogique, ça c'est un autre problème. Mais, parenthèse, nos collègues en maternelle ont des tas de pratiques excellentes pour préserver la parole des enfants, restaurer de l'égalité, etc. Donc, moi, si vous voulez, ce que je retiendrai plutôt par rapport à ce que vous dites, c'est que il faut prendre les élèves comme ils sont, avec leur connaissance verbale, orale. Vous voyez comment je le dis leur Je le fais exprès de le dire en termes mathématiques, leur connaissance verbale orale. Un linguiste dira jamais ça, il sait pas de quoi je parle. Quand dans ma communauté, on ne parle pas comme ça. Et on a bien tort. Parce que on ne conçoit pas la langue comme un ensemble de connaissances qui s'additionnent, qui s'enrichissent, qui se musclent, etc. Résultat, la langue est un espèce de données sur lesquelles on sait pas comment agir. Alors, moi, je dis, quand nous observons ces élèves en situation d'extrême difficulté, leur connaissance verbale, quand on les observe minutieusement, sont beaucoup plus importantes qu'on le croit, beaucoup plus variées et beaucoup plus adaptées qu'on le croit. Elles sont souvent le seul endroit où ils ne sont pas brillants, c'est lexicalement parlant. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Ce n'est pas la richesse lexicale qui a une importance dans la réussite scolaire. Ça, on peut vous le prouver. Ils sont jamais piégés par le sens d'un mot. Sauf en situation d'apprentissage de lecture, parce que là, on s'arrange pour les piéger. Mais c'est un autre problème. Oui, mais dans ces situations-là, ce n'est pas les mots qui les gênent. Vous voyez, c'est bien autre chose. Je sais pas, oui, Et donc, ça doit rendre très optimiste, hein, d'une certaine manière, ce que je raconte. Puisque s'ils ont les connaissances, ben, utilisons-les. Donc, nous, tout notre travail, c'est d'essayer de dire, attention, ils en ont beaucoup plus que vous croyez. Ne les déniez pas, ces connaissances. Ne faites pas tout pour les annuler. Et sur ces connaissances, construisez les autres. Sur ces connaissances. Ne passez pas votre temps à essayer de leur montrer qu'ils ne savent pas ce qu'ils ne savent pas, ce qui est sans intérêt, effectivement. Oui, ce qu'on fait très souvent. C'est essayer comme ça. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais en tous les cas, c'est ce que j'aurais tendance à répondre.